إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. أتمنى اللهم معهم بأحسن وفرمت يا رحم الرحيم ورزود ورزود يا رب العالمين. أما بعد، donc on va continuer sur l'explication de l'Ashmaoui. Donc on avait terminé tout ce qui était chapitre des eaux. Donc si vous avez des questions, je pourrais répondre aux questions, mais pour ça c'est clair. Sur le site, il existe un enregistrement d'un cours un peu plus long, plus détaillé concernant la fin de la Hashmaoui, donc sur la partie qu'on avait vue concernant la classification des eaux. Donc là, dans le deuxième chapitre, on va commencer par parler des obligations dans les ablutions. Donc les obligations dans les ablutions, ils sont au nombre de 9, donc tels qu'ils sont décrits ici. Donc on va les prendre un à un et on va les définir. Là on va rentrer un peu plus dans les détails parce que c'est vraiment très important la manière dont on fait les ablutions, et évident que c'est très très important. Donc la première des obligations, c'est l'intention au moment de laver le visage. Alors pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien, donc ça, je l'explique à tout le monde. Pour l'acte général de faire les ablutions, commence à peu près comme ça. On lave les mains, donc en commençant par la main droite 3 fois, la main gauche, la main, donc jusqu'au poignet. Après, on lave le visage, après on gargarise la bouche, on nettoie le nez 3 fois, pareil, donc la bouche on gargarise, donc on rejette l'eau, le nez on inspire et on éjecte l'eau, après on lave le visage 3 fois, après on lave les mains, donc de la pointe des doigts jusqu'au coude, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Après, on essuie les cheveux et après, on essuie les oreilles. Donc, on passe les mains mouillées sur les cheveux et les oreilles. Et après, on lave les pieds, donc en commençant par la droite, jusqu'à la cheville, 3 fois. Donc, ici, il nous dit l'intention doit être exprimée au moment de laver le visage. Alors, si l'intention doit être exprimée au moment de laver les visages, c'est la version, je vous rappelle toujours, c'est la version malikite, hein, c'est le rite malikite qu'on étudie là, en ce moment. Ça veut dire qu'on peut laver les mains, gargariser la bouche et le nez sans avoir exprimé l'intention. On est bien d'accord, parce que l'intention doit être exprimée qu'au moment du lavage de bouche. Alors, d'après vous, est-ce que c'est raisonnable, enfin, c'est normal ou pas?
Puisqu'on a l'intention de commencer les eaux, pour nous, on commence.
Oui, mais pourquoi il dit que c'est au moment de laver le visage?
On a raté notre bouche, hein,
non? Non, non.
Parce que les premiers éléments sont pas obligatoires.
C'est de la sonne, c'est ça. C'est-à-dire, si on prend le verset coranique, et Ayyuhal ladhina amanu, idha kuntum ila salati farsilu. Au bout que vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et essuyez-vous les cheveux et lavez-vous les pieds ou essuyez-vous les pieds selon les deux interprétations. Donc il délimite 4 éléments et donc les Malikites disent l'intention doit être exprimée, pas à ce moment-là, ce que souvent les gens ont mal compris, mais c'est la dernière limite pour l'exprimer. On fait bien attention. C'est-à-dire que si vous l'exprimez pas l'intention de vous purifier pour les ablutions, pour la prière, à ce moment-là, vos ablutions n'ont pas été faites. Alors si vous l'exprimez avant, c'est bon, au début, avant de me laver les mains, ou même avant d'ouvrir le robinet, hein, ou de prendre l'eau. J'exprime l'intention de faire les trucs, c'est bon. Mais la dernière limite, c'est le début de l'obligation. C'est de laver le visage. Alors souvent les Malikites, ça c'est on sort un peu de la compréhension du truc pour entrer dans une espèce de rigorosité du texte, ils disent les Malikites, non, il faut l'exprimer à ce moment-là. Si vous le faites avant, elle n'est pas valable. Non, c'est tout à fait faux. C'est la dernière limite de l'exprimer. Pourquoi ? Parce que c'est le début de l'obligation. Alors, ça c'est le rite Malikite. Dans les autres rites où ils considèrent que l'intention est obligatoire pour les ablutions, elle doit être exprimée avant de commencer. C'est comme la prière. L'intention s'exprime avant l'acte, pas au courant de l'acte. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer la prière, après vous exprimez l'intention de la faire. Vous la faites avant et vous démarrez. Donc, vous voyez, là, ils vont incorporer tout ce qui est sunna en disant ça fait partie de l'ensemble, donc on l'exprime au début. Et les malikites, ils disent, bon, non, on peut l'exprimer jusqu'à là. Un certain moment, c'est le début de l'obligation. Le début, c'était pas le lavage des mains, le gargarisme de la bouche et le nettoyage des nez ne font pas partie des obligations. Donc, on peut les faire sans forcément et avoir l'intention, mais au début des ablutions, c'est-à-dire le lavage du visage, l'intention doit être clairement exprimée. Alors, ça c'est un avis. Le deuxième avis, donc l'obligation de l'intention, il y a certains rites, comme le rite hanafite par exemple, le rite hanbalite, ils disent non. L'intention n'est pas obligatoire dans les ablutions. Alors, eux, ils vont distinguer deux choses. Ils vont dire, elle n'est pas obligatoire dans les ablutions de l'eau, mais elle est obligatoire dans le tayammum, c'est les ablutions sèches avec la terre. Pourquoi ? Ils te disent, mais à cause du verset coranique. Le verset coranique, il dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu. » Ou vous qui croyez, ou vous les croyants, si vous vous levez pour faire la prière, lavez-vous. Est-ce qu'il a exprimé qu'il fallait avoir une intention ? Non. Ils disent le fait que j'y vais pour faire les ablutions, ben c'est ça. Mais par contre, pour le tayammum, il a dit « Wa tayammamu sa'idan tayyib » et dirigez-vous vers la terre pour faire les ablutions. Donc le fait de se diriger c'est-à-dire qu'on ne peut pas se diriger vers quelque chose sans en avoir l'intention. Sinon, il aura dit eux, ils disent comme ça, dirigez-vous vers l'eau pour vous faire les ablutions. Donc, il aurait fallu avoir l'obligation d'avoir l'intention avant. Ils disent Dieu ne l'a pas dit, donc il suffit d'accomplir comme ça a été prescrit dans le Coran, c'est-à-dire de laver le visage. Le visage, les bras et d'essuyer la tête et de laver les pieds pour que on arrive à ce que Dieu demande de nous. Alors on restera toujours pour moi l'intention elle est importante. Pourquoi ? Parce que je considère que les ablutions sont un acte d'adoration en lui-même. Alors pourquoi c'est un acte d'adoration pour lui-même ? Parce que c'est un acte qui n'a pas de sens pour moi. Pourquoi il n'a pas de sens ? Parce que tout simplement, Dieu va me demander de laver mes mains. Je me considérer rester aux obligations. Je ne citerai pas les sonnes. Mais de laver le visage, de laver les mains, et d'essuyer la tête et de laver les pieds, parce que j'ai uriné ou parce que j'ai eu un pet. Quel est le rapport entre l'un et l'autre ? Est-ce que mes bras, ma tête, tout ça, ont été souillés par le fait que j'ai uriné ou parce que j'ai fait un fait ? Non. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, le rapport, s'il m'avait dit, lavez-vous l'endroit par lequel la souillure est sortie, je dis, ah oui, mais ça, c'est logique. Mais il n'y a pas de rapport. Donc, on est devant une adoration qui n'est pas compréhensible. On n'est pas devant un acte de propreté, on est devant un acte qui est demandé par Dieu, qui n'a pas de logique mentale qu'on peut exprimer. Quel est le rapport entre... À la limite, je dirais, je suis recouvert de sang. Ou supposons, par exemple, le lavage suite à des rapports sexuels, on dit oui, je suis sale et tout. Bon, j'aurais pu se contenter de l'endroit où il y a le... il y a eu le sperme ou un truc comme ça pour laver. Bon, il me demande de laver tout le corps. Pourquoi pas? C'est compréhensible. Mais dans les ablutions, il n'y a rien de compréhensible. Il n'y a pas de logique. Et donc, c'est purement un acte d'adoration. Je m'approche de Dieu en faisant les ablutions. Et je fais les ablutions. Je considère, une fois que j'ai terminé les ablutions, qu'en fait, je suis en état de pureté. Je suis pur. Alors que je pourrais être, à la limite, recouvert de terre. Vous voyez, je peux être complètement avec de la boue. Je suis en état de pureté. Pourquoi? Parce que la boue n'est pas un élément de souillure. Par contre, si j'ai une goutte d'urine sur moi, je suis en état d'impureté. Alors, une goutte qui ne se voit pas et qui ne se sent pas me rend impur, alors que si je suis recouvert de la tête aux pieds par de la boue, je suis encore en état de pureté. Donc, vous comprenez bien que à ce moment-là, la pureté, le niveau pureté, le truc n'a rien à voir avec ce que nous appelons la propreté. On a un élément juridique posé par Dieu qui nous permet d'accéder à des conditions, c'est-à-dire la prière, certains actes d'adoration, mais qui n'a rien à voir avec la propreté. La propreté telle que nous la concevons maintenant. Donc, si ce qui emmène à un état, ce qui emmène à une adoration est en lui-même une adoration, donc les ablutions, pour moi, c'est une adoration qui est à part entière et qui, malheureusement, et à mon grand regret, n'est souvent pas comprise par les gens. On a plus l'habitude de faire les ablutions par habitude sans vraiment nous rendre compte de ce qu'on est en train de faire, et on n'en fait pas un acte d'adoration en lui-même. Pour vous donner pour que vous compreniez bien l'importance de ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Bilal. Bilal, c'est un esclave qui a été libéré et qui était le muazzin, c'est celui qui appelait à la prière pour le prophète. Je considérais que c'est, en termes de classe sociale, c'est le niveau le plus bas de la classe sociale. Un esclave noir en plus, c'était abbasside, donc c'est pas quelqu'un. Et le prophète, il l'appelle un jour, il lui dit: Bilal, je voudrais te poser une question. Il dit quoi? Il lui dit: dis-moi ce que tu fais de spécial. Alors Bilal ne comprend pas la question. Il dit: je fais rien de spécial. Il dit: j'ai entendu tes pas au paradis. Il n'est pas encore mort. Donc il a entendu, le prophète a entendu les pas de Bilal au paradis. Il a dit: si tes pas sont déjà au paradis alors que toi tu es encore sur terre, c'est forcément que tu as une adoration, enfin que tu fais quelque chose pour te rapprocher du Dieu qui sort du commun des gens. Bilal dit: non, je ne fais rien. Après, il y réfléchit. Qu'est-ce que tu veux de... Après il réfléchit, Bilal, il lui dit: je n'ai jamais perdu les ablutions sans que tout de suite après je fasse de nouveau les ablutions, et je fais de rak'at après les ablutions, qui est une sunna. C'est-à-dire que chaque fois qu'il perd ses ablutions, parce qu'il est allé aux toilettes ou comme ça, il refait tout de suite en sortant des toilettes. Il n'attend pas d'arriver à la prière pour faire là un truc, il refait tout de suite après. Et donc il est en état de pureté rituelle, je dis toujours, tout le temps. Et le prophète fait un signe pour dire: c'est ça. Donc vous voyez l'importance. Il lui a pas dit: je prie toute la nuit, je lis le Coran, je termine le Coran une fois par jour, je donne ceci, je donne ça. Il a décrit un acte qui est à la portée de tout le monde. Là, je suis en état de pureté rituelle tout le temps. Donc vous voyez l'importance de ce que c'est. Donc est-ce que il est évident que cet élément-là doit nous dire, si ça a amené Bilal au paradis, c'est que ça a une importance, ça peut être considéré. Si c'est pas ça une adoration, qu'est-ce qui peut être une adoration? Donc il est très important qu'on comprenne, à partir de ce cours-là, l'importance que ça. Donc, l'intention. Alors, je dis, si c'est une adoration à part entière, elle doit avoir une intention spécifique. On doit donner l'importance aux ablutions par une intention spécifique. Alors, l'intention de faire les ablutions sont différentes. Alors, il y a exprimer, je parle. On exprime l'intention de faire les ablutions de trois manières différentes. C'est, je suis en état d'impureté, donc je lève l'état d'impureté pour faire la prière. Donc c'est l'art de la prière. Je suis en état d'impureté, donc j'arrive, je dis, je fais les ablutions pour lever l'impureté sur laquelle j'étais pour pouvoir faire la prière. Ça, c'est une intention. Ça, c'est une forme d'intention. D'accord ? La deuxième forme d'intention, c'est de lever l'état d'impureté sans avoir l'intention de faire la prière ou quoi que ce soit. Par exemple, ce que faisait Bilal. Sauf qu'il ne le fait pas tout à fait, c'est pas ça. Mais je suis en état d'impureté, je vais faire mes ablutions, mais je n'ai pas de prière à faire après. D'accord ? Donc je lève un état d'impureté. D'accord ? Et la troisième manière, c'est de lever l'état d'impureté avec une intention de faire une sunna. Par exemple, je considère que toucher le Coran, je ne peux pas le faire en état d'impureté. Donc je vais faire mes ablutions pour pouvoir toucher le Coran. D'accord ? Vous voyez les trois différentes. La première, pour m'autoriser à faire la prière. La deuxième, pour lever l'impureté. Et la troisième, pour me permettre de respecter une sunna, de toucher le Coran, par exemple, dans l'état d'impureté. Donc on a trois intentions différentes. Alors, la première qui me permet de lever l'impureté pour faire la prière, c'est de reconnaître, c'est ce qui est admis par tous les savants comme étant l'intention par excellence. Pourquoi ? Parce que les ablutions sont une nécessité pour accomplir la prière. Donc si je fais mes ablutions dans l'intention de faire la prière, pour pouvoir me permettre de faire la prière, c'est par excellence. C'est le niveau le plus haut. Ibert Salat. Donc je m'autorise à faire la prière. Même si je ne la fais pas tout de suite après. J'ai pas d'obligation à la faire tout de suite après. Mais je lève l'impureté pour pouvoir faire la prière. Ça, c'est le niveau le plus haut. Le deuxième niveau de l'intention, c'est de pouvoir faire oui, voilà. Le deuxième niveau, c'est de ne plus être en impureté. Alors, la plupart des savants, ils disent ce niveau-là ne permet pas de. C'est-à-dire que je fais mes ablutions parce que je suis en état d'impureté. Il n'y a pas de prière après. La prochaine prière est dans 2 heures. Quand je vais arriver à cette nouvelle prière, même que j'ai pas entre temps perdu mes ablutions, elle ne m'autorise pas à faire la prière. Elle ne m'autorise pas à faire la prière parce que l'intention des ablutions n'était pas la prière. D'accord ? L'intention n'était pas la prière. Donc elle ne m'autorise pas. C'est un avis, hein. Je vous cite tous les avis des savants. C'est un avis. Ça ne veut pas dire que demain, si vous faites la bonne truc, vous devez refaire. C'est un avis des savants. Ils disent celle qui a été faite dans un acte de lever l'impureté n'autorise pas la prière. Il faut que les ablutions autorisent la prière pour pouvoir être acceptées comme étant l'intention doit autoriser la prière pour pouvoir être considérée. Maintenant, il reste le troisième élément, c'est celle qui permet de faire une sunna. Là aussi, on a deux avis. Ils disent, si vous avez fait les ablutions pour faire une sunna, même si c'est une prière, imaginez que, par exemple, vous faites la prière de Dhuha. La prière de Dhuha, c'est 2 heures après le lever du soleil, donc c'est vers 10 heures du matin, ou à 10 heures, vous avez perdu les ablutions, vous faites la prière, vous faites les 2 rak'a de Dhuha, vous restez en état de pureté jusqu'au dhuhr. Au moment de dhuhr, vous ne pouvez pas, pour une certaine catégorie de gens, faire
la prière obligatoire. La prière obligatoire doit nécessiter une intention particulière, donc vous devez refaire les ablutions. Et les autres, ils disent non. Et l'avis le plus général, c'est que faites les prières avec faites toujours les ablutions avec l'intention d'autoriser la prière, ce qui lève tous les doutes. Ça lève les différences entre les savants et tout comme ça. Ces différences, on va pas rentrer dans trop de détails parce que les écoles sont trop compliquées et tout, mais il faut comprendre que les différences des savants ne viennent pas de leur tête, ils ne sortent pas de leur cerveau et tout comme ça, ils se passent sur des textes, sur des fêtes du prophète. À un certain moment, il a refait les ablutions, à un autre moment, il ne l'a pas refaite, et ainsi de suite. Et donc, tous ces éléments-là, ils en tirent des conclusions. Et pour lever le doute, ben, ils préconisent une chose. Ils préconisent, on refait les ablutions. Si vous avez un doute. Par exemple, imaginez que vous arrivez à l'heure de la prière, ce qu'on avait déjà étudié vous dites, je ne sais plus si je suis en état de prière, si j'ai un état d'ablution ou pas. Alors, certains vous disent, l'islam part sur le principe de la nature. L'état naturel, c'est que vous étiez en ablution. Donc, si vous avez un doute, vous êtes toujours en ablution. Les autres disent, ah non, le doute détruit la certitude. Si vous avez un doute, refaites les ablutions. Donc, il est évident que chez nous, en Europe et trucs comme ça, on a de l'eau partout, on peut refaire les ablutions. Si je dois refaire mes ablutions, ça ne me pose aucun problème. Dans le désert, c'était plus problématique. Donc, toutes ces questions-là se posent dans des conditions très particulières. Mais quand vous avez un doute et que vous avez la possibilité de lever le doute très rapidement, il est évident que ça ne doit plus poser un problème de refaire les ablutions. Donc, on a dit, l'intention doit être, en règle générale, enfin, je préfère préconiser que l'intention soit exprimée dès le départ, parce que les ablutions sont une adoration à part entière. Je reviendrai à la fin pour faire un cours très particulier sur ça, comme étant une adoration à part entière. Et donc, je vous ai exprimé les trois différentes intentions de l'individu qui envisage. Alors l'intention est toujours exprimée à l'intérieur. On commence pas. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui dit j'ai l'intention de me laver pour faire la prière. Non. On ne fait pas. Mais il y a une chose qui est intéressante. Par exemple, pour que vous compreniez pourquoi l'imam Ahmed ibn Hanbal, un des grands imams. Généralement, on dit que l'école hanbalite c'est la plus dure. Lui n'existe pas l'intention. Alors, vous voyez, c'est une contradiction. On le traite de l'extrémisme, alors que c'est lui qui exige souvent le moins de choses. Pourquoi il dit l'intention n'est pas obligatoire? Bon, en plus, à part le texte coranique sur lequel il se base, entre le tayammum et les ablutions, il dit, mais comment voulez-vous qu'un individu aille ouvrir un robinet et commence à se laver sans en avoir l'intention? C'est pas possible. On ne peut pas aller se laver sans avoir l'intention de... Mais les autres, ils disent, oui, il peut avoir l'intention de se laver, mais pas pour être en état de pureté rituelle. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a très chaud. Il va se laver, ben, il va faire couler l'eau un peu plus pour se rafraîchir et tout. Par exemple, vous imaginez, il se lave le visage, ben, ça coule sur sa poitrine et tout. Donc, il a fait tout ce qu'il avait à faire dans l'acte d'ablution. Les écoles disent, non, ce n'est pas des ablutions. Parce qu'il avait l'intention de se rafraîchir. Et lui, il dit non, mais l'eau est passée, il a nettoyé les endroits que Dieu a demandé de laver, c'est des ablutions. C'est quelqu'un qui est sous qui va à la mosquée, il est en état d'impureté rituelle, et il dit je vais faire mes ablutions quand je vais arriver à la mosquée. Et en cours de route, il y a un orage terrible, il le mouille partout. Là, l'imam Ahmed ibn Hamid, il est arrivé, il est en état de pureté. Il a été mouillé de partout. L'eau est tombée et passée partout. Donc il était en état de pureté rituelle, il n'a pas besoin de faire les ablutions. Les autres ils disent non, il faut qu'il fasse les ablutions. Il faut laver les endroits prescrits. Donc on a des avis différents, mais ce n'est pas une divergence. Les gens y croient, ah oui, mais on a, vous avez beaucoup d'avis, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Non, c'est des compréhensions, c'est des applications. Les uns vont considérer que c'est un acte à part entière, il doit être effectué comme Dieu la demande à part entière. Et d'autres, ils disent non. En fait, Dieu nous a demandé, le but c'est de laver ces endroits-là. Donc si on les lave, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à compliquer les choses. C'est des avis, il faut respecter tous les avis. Alors, est-ce que Dieu nous a demandé de les laver et donc le but c'est de les mouiller, ou est-ce que Dieu nous a demandé de les faire d'une certaine manière? Tous les avis sont possibles. On n'est pas Dieu, on n'est pas dans son secret pour savoir. On sait que c'est des possibilités, que le prophète a agi selon plusieurs manières, et donc nous arrivons à acquérir une conviction d'une certaine approche de ça, et donc nous devons respecter cette approche-là. Donc ça c'est ce qui concerne l'intention. Le deuxième élément, c'est le lavage du visage, donc comme étant une désobligation. Alors, louage, comme le mot visage, d'ailleurs j'ai utilisé le mot visage dans ce sens-là, c'est ce qui vous fait face, c'est ce que vous voyez. Le visage, c'est ce qu'on voit, louage, c'est ce qui fait, qui est louage, c'est-à-dire qui est en face de celui que vous voyez. Donc c'est toutes les parties que vous voyez devant. Donc ils sont limités par, en haut, la naissance du cheveu, d'accord, le contour des oreilles, avant les oreilles, et la descente du menton. Donc ça. Donc là, ce qui est caché là, ça ne fait pas partie du visage. Ce qui est en dessous de le cou, tout ça, même le bas du menton ne fait pas partie. C'est vraiment ce qui fait face à la personne. C'est ceux-là qui doivent être lavés. D'accord? Donc c'est les limitations. Alors, je vais citer quand même quelques choses différentes. Par exemple, on dit ici les cheveux. Ben, si les cheveux, on prend la naissance naturelle des cheveux d'un être, de quelqu'un qui a les cheveux qui poussent naturellement. Pareil, imaginons quelqu'un qui a une difformité, il a les cheveux qui commencent au niveau des sourcils. Est-ce que cette partie-là est considérée comme étant partie du front ou de la tête? Elle est considérée comme étant partie du front et doit être lavée, mais elle sera recouverte par des cheveux. Parce que c'est le visage, c'est ce qui est naturellement appelé visage et que communément reconnu comme étant le visage d'un être humain. D'accord? Donc on ne peut pas rentrer dans des choses particulières. Ça, c'est ce qui concerne le lavage du visage. Après, laver les bras jusqu'au coude. Alors, ça, c'est très important. Ce terme-là, quand on dit le bras jusqu'au coude, le terme arabe désigne de la pointe des doigts jusque le coude compris. Alors, certaines personnes, ça c'est des erreurs qu'on fait souvent, les gens ils se sont lavés les mains au début, en désablution, et après ils lavent là, sans mouiller les mains. Alors, une sunna, c'est-à-dire un acte surérogatoire, ne remplace pas une obligation. C'est pas parce que vous avez lavé les mains au début à cause d'une sunna que le fait de remplir l'obligation après, dit ah ben ils sont déjà mouillés, c'est pas la peine que je les mouille de nouveau. Non. Ce qui est appelé bras en langue arabe, c'est de la pointe des mains jusqu'au coude. Et donc quand on doit les laver, on doit laver de la pointe des mains jusqu'au coude, même si les bras ont été mouillés avant. D'accord? Yed. Donc il faut laver complètement le bras entièrement jusqu'au coude. Alors la différence réside dans la compréhension des savants, c'est est-ce que les coudes sont dedans ou ils sont pas dedans. Ça c'est toujours le problème de savoir est-ce que ils sont compris ou est-ce qu'ils sont pas compris. Bon, je vais pas rentrer dans la différence, il faudra prendre un cours entier pour expliquer ça, mais en règle générale rentrez-les dedans, comme ça vous sortez de tous les problèmes. D'accord?
Il ne faut pas faire plus, mais il faut les rentrer dedans comme ça. Parce que jusqu'au, ça dépend de la terminaison. Est-ce que c'est compris ou c'est pas compris? Ça dépend, ça diffère en langue arabe par certains sens. Et donc, si on rentre le coude dedans, on a accompli ce qui est demandé par Dieu. Et donc, il faut absolument rentrer les coudes dedans et laver, même si les mains ont été lavées, du début jusqu'à la fin. Après, c'est lustrer la tête, c'est-à-dire c'est passer les mains mouillées sur la tête. Aussi comme c'est. Donc, il faut que les mains soient mouillées. Il ne faut pas emmener de l'eau sur les cheveux. C'est l'humidité des mains suffit pour lustrer les cheveux. Alors, la différence des savants réside dans la manière de lustrer les cheveux. De lustrer la tête. Et de dire, quand on appelle la tête, c'est clairement défini chez les êtres humains, c'est à peu près toute cette partie-là. Sauf que le texte arabe, il dit « Wamsahu biru'usikum ». Le verset coranique il dit et lustrer, c'est vraiment très difficile de traduire, mais ce birus, le mot tête veut dire ras en arabe. Il a pas dit wamsahu ru'usakum, il a dit wamsahu biru'usikum. Alors cette lettre là, le ben, quand on l'utilise en langue arabe, elle a un sens, mais elle en a plusieurs. C'est la difficulté de la compréhension, elle en a plusieurs. Souvent, quand on dit bi, ça veut dire une partie. C'est-à-dire qu'on va utiliser une partie. C'est-à-dire pas la totalité, une partie. Et c'est l'école hanafite, c'est le principe de l'école hanafite, ils ont pris le mot biru'usikum dans le sens d'une partie de la tête. C'est-à-dire pour eux, si je fais ça, c'est le début de la tête, je fais juste ça, c'est largement suffisant. Ils disent, le minimum, c'est le tiers. C'est le minimum de la tête, c'est le tiers. Donc si le tiers a été essuyé, j'ai accompli ce que Dieu me demande. Je rentre dans des détails là pour que vous compreniez, après on fera la synthèse. Il dit si le tiers de la tête ils sont essuyés, ça suffit. De la même école, ils sont même pas d'accord avec Abou Hanif, ils disent non. Si trois cheveux sont seulement mouillés, c'est largement suffisant. Si on passe sur trois cheveux, c'est pour ça que par exemple dans quand on va au rite maliki, quand on va au pèlerinage, on voit des gens qui, normalement, après le pèlerinage, on a terminé le pèlerinage, il faut se couper les cheveux, ils font ça, ils prennent 2-3 cheveux, ils les coupent, ça y est, ils ont terminé. Ils respectent le rite hanafite, en fait, parce que ce bila dit une partie, donc une partie signifiante, et la partie signifiante en arabe, elle est très simple. C'est la compréhension. En arabe, quand on compte, on a la singularité, la dualité, et à partir de là, on a le groupe. C'est-à-dire, on dit 1, 2, pour second, et après le 3, ça commence à faire un groupe. Donc, le 1 et le 2 sont exclus du groupe, à partir du 3, donc c'est déjà un groupe. Donc, 3 cheveux, c'est déjà une grande partie de la tête. C'est une partie de la tête. Donc vous comprenez, c'est la compréhension linguistique du texte là. Et donc ils disent 3 cheveux, c'est suffisant. Les autres ils disent le bain qui est utilisé là, ça désigne la partie d'avant, biru usikum, c'est-à-dire du début. Donc du début de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer à essuyer à partir du début, d'ici vers l'arrière, et pas de l'arrière vers l'avant. C'est-à-dire que si vous faites de l'arrière vers l'avant, c'est pas valable. C'est du début de la tête. Biru usikum, c'est-à-dire du début.
En arabe, on dit Ataytu bilbab, je suis rentré par la porte. Je suis du début, ça, l'endroit où j'ai commencé. Là. C'est une autre forme d'utilisation de la tête. Alors, on restera toujours avec ces deux manières-là. Alors, le rythme liquide, eux, ils exigent que les cheveux soient essuyés du début et complètement vers la fin, et on verra que c'est de la sonna de revenir vers l'avant. Ça, c'est ce qui concerne la lustration de la tête. Donc il y a aussi d'autres variantes, mais je rentrerai pas trop dans les détails là, je reste dans les généralités pour essayer de comprendre le plus. Après, c'est laver les pieds jusqu'aux chevilles. Là c'est pareil, le pied c'est la partie inférieure, on a le même problème qu'avec donc c'est de la pointe des doigts, la plante des doigts jusqu'à la cheville. Et est-ce que les chevilles sont dedans ou pas, pour sortir de la différence, parce qu'on restera toujours dans ce problème-là. Il faut les rentrer dedans, comme ça on sort de la différence des savants. Mais ils ont des raisons, hein. Ils sont toujours sur une base linguistique qui est très solide et tout, et tous les avis sont compréhensibles, et on ne dit pas que l'autre a tort, puisque c'est linguistiquement c'est applicable. Alors, par contre, je vais parler d'un détail, je vais terminer avec ça pour aujourd'hui, je ne vais pas terminer, parce qu'il y a deux éléments, j'en parlerai aussi. C'est la différence qu'on a entre les sunnites et les chiites, concernant les pieds. Le verset coranique, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum » وأيديكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه. C'est-à-dire que le verset, si on le traduit en français, on va avoir, si on traduit comme il est structuré, ô vous qui croyez, si vous vous levez par la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, et essuyez vos cheveux, votre tête et les pieds. C'est là, comme ça. Alors, la plupart, les sunnites, ils ont dit, oui, d'accord, le texte, il est apparemment comme ça. Mais la structure linguistique du texte et tout rapporte les pieds au lavage et non pas à l'essuyage. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez lavez-vous le visage lavez-vous le visage, les bras et les pieds et essuyez-vous la tête. Sauf qu'on a mis les pieds après la tête en disant mais de toute façon ils font partie du lavage et non pas de l'essuyage, dû à une structure très spécifique de la langue arabe. Et ça a été dès le départ un grand problème dans le truc, parce qu'on a des hadiths. Même quelqu'un qui n'est pas chiite du tout, qui est l'oncle du prophète, il dit dans l'islam on a deux lavages et deux essuyages. Il dit pas lesquels, on dit deux lavages et des essuyages. Si on connaît le texte coranique, les deux lavages et des essuyages sont clairs. Deux lavages, le visage et bras, et deux essuyages, la tête et les pieds. D'accord. Et les ablutions telles que les chiites les font aujourd'hui consistent à essuyer les pieds. Ils ne lavent pas les pieds, ils les essuient. Ils passent la main mouillée sur les pieds pour les essuyer. D'accord. Alors, ça restera toujours, il n'y a pas de truc. Mais chacun a ses arguments. Chacun. Alors, les sunnites, bien sûr, pour reconforter le principe que le lavage est obligatoire pour les pieds, tout simplement sur les faits du prophète. Il dit tous les compagnons, on a des dizaines et voire des centaines de hadiths rapportés sur les ablutions du prophète, il a lavé ses pieds. les chiites, ils disent pas que c'est pas vrai. Ils disent pas que non, le prophète n'a jamais lavé les pieds. Il dit mais il en a fait plus. Mais l'obligation reste l'essuyage. Donc l'essuyage, c'est le minimum, et le lavage, c'est un plus. Donc ils nient pas qu'on peut laver les pieds. Ils disent non, c'est pas demandé, c'est pas obligatoire. D'accord ? Ils disent, c'est pas obligatoire. Donc c'est un peu tout à l'heure, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les malikites, on dit l'intention commence au lavage du visage. Alors, on peut la faire avant, mais c'est le dernier moment. Donc là, on a le minimum, c'est essuyer le pied. Si vous voulez le laver, vous le lavez. D'accord ? Donc on aura toujours cette différence qui existe toujours entre les écoles juridiques musulmanes. Et après, on a la continuité. La continuité, elle est quasiment exigée par tout le monde. La continuité, c'est-à-dire, je ne lave pas mes mains, rentrant dans ce qui est obligatoire, je ne lave pas mon visage, et après, je vais faire quelque chose, et après, je reviens, et je dis, ah ben, je l'ai lavé tout à l'heure, je vais continuer autre chose. Non, il faut que ça soit un acte continu. Il faut que vous commenciez dès le début, vous ne vous arrêtez pas. On peut s'arrêter si votre enfant tombe, vous le relevez, c'est un arrêt raisonnable, normal. Il y a le feu chez vous, vous éteignez le feu en jetant un verre d'eau, tu vois, appelez les pompiers. Mais vous agissiez dans un truc. Alors, on dit toujours un arrêt raisonnable. C'est-à-dire que. Alors, d'autres, ils disent l'arrêt peut être raisonnable du moment que l'élément qui a été lavé n'est pas devenu sec. C'est-à-dire, je lave mon visage, je suis toujours dans un temps raisonnable, tant que mon visage est encore mouillé. Je peux aller téléphoner et tout, tant que mon visage est. Je reste une demi-heure au téléphone, tant que mon visage est téléphoné et mouillé, je suis encore dans un temps raisonnable. Mais c'est compréhensible. Ils disent, le but est encore là. Je veux dire, le mouillé, il est encore là. Donc on est encore dans un temps raisonnable. Évidemment qu'il y a un juste milieu. Donc il y a un juste milieu, le temps dépend. Si vous êtes sorti d'un. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut relier ça avec l'intention. Si vous avez une intention, vous avez exprimé l'intention de faire les ablutions, et contre-temps, vous avez eu d'autres intentions, il est évident que ces intentions ont annulé les premières. D'accord ? On ne peut pas avoir des intentions qui se succèdent en étant dans le même niveau, c'est pas possible. L'être humain est fait pour ne faire qu'une chose à la fois. Donc il faut savoir que l'intention de faire les ablutions était annulée par le fait de vouloir répondre au téléphone. Puisque là, vous avez la volonté de répondre au téléphone. Donc la volonté de répondre au téléphone a annulé l'intention. Et d'autres disent non, mais l'intention des ablutions étant toujours valable tant que les ablutions ne sont pas terminées. C'est la fin des ablutions qui annule ce truc, même si j'ai eu d'autres intentions. Ça, c'est des avis. Vous comprenez que c'est acceptable. On peut l'accepter comme étant un raisonnement. Donc, mais bon, il faut être un peu. Il faut considérer ça comme ce qu'on va revenir dans un cours. Il faut considérer les ablutions comme une adoration à part entière. Alors, à ce moment-là, il faut lui donner l'import. On ne peut pas imaginer. Bien que c'est admissible, vous savez très bien que, par exemple, vous êtes en train de faire la prière et un enfant crie dans la rue, vous sortez tout de suite pour aller le secourir. Et votre prière a été interrompue. Vous revenez, vous terminez là où vous êtes arrêté. C'est comme ça que l'islam voit les choses. Donc, il est évident que là, j'ai pas besoin de refaire l'intention et tout. Donc, c'est compréhensible. On peut mesurer la prière, les ablutions sur la prière à ce moment-là en disant, oui, mais là, j'ai eu l'intention de le sauver. Ça n'a pas coupé mon intention de la prière. Donc, c'est discutable. Il faut toujours discuter. On en reviendra. On fera un cours spécial là-dessus. Et le dernier élément, la friction. Alors ça, c'est typiquement malikite, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est-à-dire, c'est le terme, c'est d'utiliser, c'est la friction, c'est frotter. C'est-à-dire que pour laver, chez les malikites, il faut frotter les mains. Donc le visage, je ne passe pas les mains sur le truc, il faut que je frotte le visage. Alors, la compréhension vient de quoi? Enfin, pourquoi ils ont rajouté ça et pourquoi ils sont les seuls à l'avoir? C'est la compréhension de mot lavé. Tout simplement en arabe. On a deux définitions. C'est passage de l'eau ou enlever les tas d'impuretés qui est dessus. Alors, le passage de l'eau, c'est laver. Et pour enlever l'impureté qu'il y a sur un élément, en fait la saleté sur un élément, il faut le frotter. Donc même qui dit, on ne peut pas laver sans frotter. Donc l'élément qui est lavé est obligatoire. Les autres disent non. C'est le passage de l'eau sur l'élément qui est demandé par Dieu qui est la base. Et donc si l'élément passe, l'exemple de ce que je vous ai donné tout à l'heure d'Ahmed ibn Hanbal, si de la pluie tombe sur moi, les ablutions sont faites. Il n'y a pas besoin de frotter. Et donc le frottage n'est pas parti. Mais Melk dit non, on ne peut pas laver sans frotter. Le mot laver en arabe indique qu'il faut frotter. Et évidemment, la différence entre les savants restera. Il ne faut pas venir dire aux malikites, non, vous êtes dans une manière fausse. C'est la compréhension du terme qui fait la différence. Donc, mais vous ne trouverez comme obligation, il y en a d'autres qui vont le dire, c'est dans une sunna. Il va la rajouter comme étant un élément surrogatoire, c'est-à-dire pas dans les. Mais même qu'il la met dans les obligations. Vous voyez, il l'a mis comme étant un élément obligatoire, donc ça fait partie du lavage. Donc si on ne frotte pas, c'est pas lavé pour lui. Mais les autres, ils disent non. Ça peut être un mieux. Et d'autres, ils disent non. Du moment. Alors, Melk aussi, à notre avis, ils disent frotter permet de s'assurer que l'eau est arrivée partout. Donc c'est une manière de s'assurer que l'eau est arrivée. En passant avec la main, je m'assure que l'eau est arrivée à un seul endroit. Donc, par contre, si je verse, je ne suis pas assuré que l'eau passe partout. Donc je m'assure en faisant. Ça restera toujours un sujet de discussion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد